Vous écoutez, restons courtois, et ma foi, vous avez bien raison. Autour de la table, maître Damien Chalamel, Gérard Gachet, Franck Herriot et notre invité Georges Naturel, qui est sénateur de Nouvelle-Calédonie. Alors, on est en vue de ces élections du 28 juin. On en était donc à ces 10 560 hommes natifs. On a bien compris la nature de votre proposition de loi que le Premier ministre va reprendre. Mais pourquoi les Kanaks ne veulent pas les conjoints?
Alors, il y a deux raisons. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention. On l'a vécu le 2 avril, entre autres, à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, mener une réforme constitutionnelle...
Mais il faut une majorité.
Il faut une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, ma proposition de loi concernant les natifs, juridiquement, elle passe par une loi organique. Par contre, si on commence à vouloir rajouter, et je peux comprendre qu'on veuille rajouter d'autres dispositifs, comme les conjoints, voire des durées de résidence, comme ça a été validé à Bougival, à ce moment-là, on est obligé de passer par une réforme constitutionnelle.
Alors, une réforme constitutionnelle, mais là, de toute façon,
on n'a pas le temps, et puis il n'y a pas la majorité.
Franck Herriot.
Oui, alors moi, monsieur le sénateur, je voudrais revenir sur des chiffres que vous allez confirmer ou pas d'ailleurs. Des chiffres qui sont extrêmement parlants sur l'état du territoire en ce moment, surtout depuis 2024. Alors d'abord, rappelez qu'il y a 265 000 habitants en Nouvelle-Calédonie.
Oui, il y avait un recensement l'année dernière.
D'accord. Depuis 2024, un peu moins de deux ans, près de 12 800 personnes ont perdu leur emploi dans l'archipel. On est d'accord avec ce chiffre. En deux ans, le nombre de salariés a baissé de 18,4% dans le secteur privé et de 7,3% dans le secteur public. Et je crois que l'emploi salarié est retombé à son niveau d'avant 2009.
Effectivement.
Donc c'est économiquement... La consommation est en berne. Les importations ont baissé de 11% en 2025, après une chute de 29% en 2024. Donc toujours, on est toujours après les émeutes de 2024. Tout cela sur un coût de la vie supérieur à 31% de celui qu'on connaît dans l'Hexagone et de 78% sur l'alimentaire. Un néo-calédonien sur 5 est sous le seuil de pauvreté, contre 14% dans l'Hexagone, avec dont une surreprésentation de la population kanak parmi les plus précaires. Voilà, alors c'est un peu schématique, mais c'est une situation... de crise,
sociale,
une situation gravissime, sociale,
on n'a jamais connu,
mais qui sont la conséquence directe des émeutes. De 2015. J'ai pas de chiffres là-dessus, mais beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'entreprises quittent la Nouvelle-Calédonie.
Alors, c'est sûr que les émeutes de 2024 ont accéléré les choses. Mais il faut savoir qu'on était déjà dans une crise économique au mois d'avril 2024. J'étais dans le bureau du Premier ministre pour parler d'une relance économique, parce que l'économie principale de la Nouvelle-Calédonie, c'est l'économie du nickel. Et on a une concurrence, j'allais pas dire déloyale, mais extraordinaire, des Chinois et de l'Indonésie. Donc... la production de notre nickel est pas concurrentielle parce qu'on a des coûts de l'énergie, coûts sociaux et des coûts protection de l'environnement qui dépassent ce que peuvent faire les Chinois ou les Indonésiens. Donc aujourd'hui, on peut pas concurrencer. Donc on était déjà en période de crise économique. On parlait de relance économique en 2023. C'est vrai que les émeutes ont rajouté à tout ça. Il y a eu effectivement plus de 2 milliards d'euros de dégâts énormes, en particulier pour les entreprises.
500 entreprises et maisons détruites, 600 véhicules brûlés, et puis 14 morts aussi quand même.
Donc voilà. Donc une problématique avec les assurances, c'est encore le cas, compliqué de pouvoir se faire se rembourser sur les assurances. Bien sûr, les banques qui ne suivent pas. Pour les chefs d'entreprise, parce qu'il y en a qui sont résilients, qui ont envie de se relancer quand même. Mais il faut trouver les ressources pour. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on a un problème politique, c'est vrai, à régler. C'est lié effectivement à la suite des accords de Nouméa, mais en même temps, on a cette crise économique et sociale qui pénalise énormément. Donc les Calédoniens aujourd'hui, ils sont résilients, mais je pense que le côté économique et social devient prioritaire par rapport au débat politique.
Alors quel est le discours des indépendantistes par rapport à ce constat, à cet état?
Alors les indépendantistes, ils n'ont pas le même problème qu'on peut avoir nous. Européens, cartésiens.
Oui, enfin, ils sont aussi confrontés à une crise économique.
Mais leur population souffre aujourd'hui. Vous savez, je donne toujours cet exemple, les petits cambriolages, c'est pas pour des bijoux ou des matières, c'est le frigo qu'on vide, hein, parce qu'effectivement, il y en a certains, ils cherchent à se nourrir.
Donc plus, ça devient... 40, plus 46,7% pour les cambriolages de logements depuis 2024.
Oui, mais pour du cambriolage d'alimentaire ou autre, donc ça montre qu'effectivement, en particulier dans l'agglomération, on est dans une situation critique. Mon inquiétude, franchement, c'est qu'il y a une crise sociale cette année. Si on n'arrive pas, avec cette respiration démographique là, de fin juin, je veux dire, avoir une dynamique rassurante hein, pour l'immobilier, pour les chefs d'entreprise, relancer l'économie, ça permettra... Parce que notre fiscalité, du fait, hein, l'économie en berne, eh ben, les ressources fiscales baissent. Mmh. Ensuite, il faut effectivement accompagner non seulement les collectivités, mais aussi les régimes de retraite, hein, enfin, bon, ou les régimes sociaux. Donc, c'est aujourd'hui l'État français qui le fait. Mmh. Heureusement qu'il y a l'État français pour nous accompagner en solidarité dans ces domaines-là, alors qu'on est compétent pour le faire en Nouvelle-Calédonie.
Ben, ça pourrait être catastrophique si l'indépendance était...
Aujourd'hui, on n'est pas... On n'était déjà pas prêt pour l'indépendance, ouais. On en est encore moins aujourd'hui.
Gérard Gachet.
Oui, vous nous expliquez, monsieur le sénateur, que cette respiration démocratique par le dégel du corps électoral est absolument nécessaire, y compris pour relancer l'économie locale et essayer de sortir de la crise que vous connaissez actuellement. Mais du coup, on invente et vous inventez des dispositifs permettant de sortir de ce gel du corps électoral, mais est-ce que le gel lui-même, au départ, n'était pas quand même une faute démocratique majeure dans une démocratie de bloquer tout à coup les compteurs électoraux pour un certain nombre d'électeurs et ne pas en admettre de nouveau? Est-ce que ce n'était pas une faute majeure avec laquelle on continue de se débattre aujourd'hui?
Effectivement, ça a été un débat au Sénat et à l'Assemblée nationale en 2007, lorsque effectivement on a gelé. Parce que je rappelle qu'au moment de l'accord de Nouméa en 1998, le corps électoral était glissant, c'est-à-dire qu'on pouvait réintégrer. Et en 2007, effectivement, sous la volonté de Jacques Chirac, à l'époque, qui était président de la République, il a été gelé. Et effectivement, depuis, on est sur ce système. Et il va falloir, parce que sinon, c'est un corps électoral qui va s'éteindre. Puisqu'on n'intègre plus personne, donc à un moment donné, je vais disparaître. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas d'alimentation, donc on peut se trouver. Et le Conseil d'État l'a dit. Attention, si on ne traite pas ce dégel du corps électoral, il y aura un vrai problème par la suite. Donc, il faut le faire.
Mais ça arrange les canaques.
Oui et non, parce que eux, ils souhaitent... parce qu'à un moment donné, enfin, les équilibres, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, donc la perte d'électeurs, elle est partagée entre les Kanaks et les autres. Donc, mais c'est pas viable à terme. Alors eux, ils insistent beaucoup, et en tout cas, c'est leur ligne de conduite, c'est de dire on ne touchera pas au corps électoral tant qu'on n'aura pas un accord, et c'était le cas à Bougival, un accord pour la suite de l'accord de Nouméa. Mais effectivement, il va falloir le faire évoluer, ce corps électoral. Indispensable.
Mais pourquoi l'accord de Bougival a explosé en vol? Parce que, visiblement, dans les rangs des Kanaks, je crois que c'est très tribal, il y a des durs et puis il y a des softs, on va dire. Et c'est les durs qui ont pris la main en disant « on n'y va pas ».
Je vais essayer de vous expliquer la situation en Calédonie. Ce que j'ai dit, du reste, j'étais présent le 13 mai 2024, puisque j'ai assisté à l'Assemblée nationale, au débat à l'Assemblée nationale. Et je suis allé dans la presse après pour dire que ce n'était pas essentiellement un problème de corps électoral. C'est vrai que c'est souvent l'allumette qui met le feu. On a un vrai problème social, vous l'avez dit un peu tout à l'heure. Et puis, on a en gros, j'allais dire, deux générations de Calédoniens, peut-être en priorité des Kanaks, qui sont aujourd'hui dans une situation en perte de perspective. Et c'est important. Hein. Si notre jeunesse, on ne leur donne pas des perspectives, c'est compliqué. Alors vous avez, la génération des accords, ceux qui ont les quadras et 30-40 ans, qui ont vu le train passer. Il y a eu effectivement, la France, elle a apporté des financements, il y a eu un développement économique énorme, mais ils n'ont pas été associés, ils n'ont pas voulu s'associer. Donc c'est en particulier chez les Kanaks, ceux qui sont mobilisés pendant le mois de mai.
Les fameux comités.
Le CCAT, le comité d'action sociale, c'est les cadres, en tout cas ils viennent de là. Mais il y a beaucoup de Calédoniens aujourd'hui qui sont dans cette situation. Et après on a un autre souci, c'est que notre projet éducatif n'étant pas adapté, alors bon, ça peut-être je n'ai pas les chiffres en pourcentage, mais sur les 60 000 élèves scolarisés dans l'année, il y en a 1 200 qui sortent du système scolaire sans diplôme dans les addictions. Et cela, mais c'est un peu, je veux dire, c'est pas spécifique à la Calédonie.
Non, ça
hein.
C'est pas. C'est, oui.
Et cela, si on s'en occupe pas, c'est sûr qu'on a retrouvé sur les barrages en particulier, hein, qu'on a manipulé. Donc cela, si on s'en occupe pas, on n'essaie pas de retrouver un système éducatif qui les réinsère dans l'emploi ou autre. J'en parlais tout à l'heure du nickel, mais il faut qu'on diversifie notre économie. On a du potentiel dans le tourisme, on a du potentiel dans l'économie verte, du potentiel dans l'économie bleue. Enfin, la Calédonie est un territoire, je pense, d'outre-mer avec un potentiel énorme.
Oui, il va falloir diversifier. Damien Chalamel.
Oui, alors, pardonnez-moi ma franchise, mais moi, vu de métropole, oui. Je n'ai jamais eu la chance d'aller en Nouvelle-Calédonie, on s'interroge régulièrement sur la pérennité de la présence française. Et alors, si j'ai bien compris, les Kanaks sont minoritaires sur cet archipel, mais au-delà de ces considérations d'arithmétique électorale dont vous nous avez entretenu, on a quand même, malgré tout, l'impression que, sur le long terme, se joue la capacité de ce peuple, de ces populations, certes minoritaires numériquement, mais qui ont une antériorité, en tout cas probablement plus importante que les populations de souche européenne, même si elles sont là depuis plusieurs générations, et que, enfin, voilà, compte tenu de l'époque, on se dit parfois que cette Nouvelle-Calédonie, un jour ou l'autre, la France lâchera ses concitoyens qui ont fait le choix de la France. Enfin, moi, c'est le mauvais sentiment que j'ai, et je pense que beaucoup de Français se disent... moi, je serais personnellement très triste que la Nouvelle-Calédonie quitte le... Oui, mais alors vous encore plus, parce que c'est...
voilà, vous voulez dire que ce qui s'est passé en 62, quoi, en fait.
Oui,
en Algérie,
oui,
quoi.
Mais je ne vais pas faire de...
Alors, moi, je peux le faire.
On peut faire de comparaison. Alors, le point intéressant de la comparaison, c'est qu'effectivement, dans un cas en 62... On avait clairement une volonté des Français, une lassitude des Français de métropole qui n'en avaient en gros rien à fiche, je parle pour la plupart des Français, de leurs compatriotes en Algérie, du million de pieds noirs qui s'y situaient sans avoir pour autant d'affection particulière pour le FLN, mais qui n'en avaient rien à faire du sort de leurs compatriotes. Et je pense que, voilà, il y a malgré tout, à des dizaines de milliers de kilomètres, il y a ces sentiments d'indifférence qui prévaut, sans avoir de sympathie particulière. Alors, ma deuxième question...
Une par une, Damien. Monsieur le sénateur.
Alors, il y en a quelques-uns, des peignoirs, hein, qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, hein, après 62. La Nouvelle-Calédonie, elle a une histoire un peu particulière, quand même. Alors, l'équilibre est différent, hein, de l'Algérie. Il y a un équilibre, contrairement à ce que vous dites, c'est du 50-50. Et on le voit dans les référendums, les trois référendums, allez, c'est 51-49, enfin, je veux dire, c'est équilibré, hein, entre les deux. On a vraiment un équilibre entre les populations. Donc ça, c'est un élément important. Il n'y a pas d'écart. Ensuite, la Nouvelle-Calédonie, alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais bon, elle a été colonisée, je veux dire, on ne peut pas dire le contraire. À un moment donné, il y avait un peuple premier qui était là. Et puis, ça a été successivement, il y a eu le bagne, hein, donc la part de population, il y a eu des immigrations régulières. Donc, ça a été souvent une... aujourd'hui, on se représente tous, ces Calédoniens, des victimes de l'histoire. Je veux dire, les indépendantistes, ils se disent victimes de la colonisation. Nous, on se dit victimes. Moi, mon arrière-grand-père est arrivé en 1900, en Nouvelle-Calédonie. Donc, je suis en Nouvelle-Calédonie. J'ai rien demandé. Je suis né en Nouvelle-Calédonie. Mais en tout cas, je suis convaincu qu'on pourra construire cette société calédonienne entre nous. Ça, c'est la première chose. Par contre, vous avez dit un élément important. Vous savez, je fais partie de la délégation Outre-mer au Sénat. Est-ce que la France, elle a aujourd'hui une stratégie pour ses Outre-mer? Je pose la question de manière générale. Hein. On peut parler de la Calédonie, mais on peut parler de Mayotte, de la Réunion, des Antilles, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna.
La France.
C'est un vrai sujet.
Oui, c'est un vrai sujet, mais la France, n'ayant pas de stratégie, monsieur le sénateur, pour les retraites, je ne vois pas comment on en aurait pour...
Moi, je veux parler de la Calédonie.
Pour la Calédonie.
Pour répondre à votre question... Deux éléments, je veux dire, le débat sur la colonisation ou l'autodétermination des populations qu'on a colonisées, c'est pas moi qui vais le régler. C'est un problème entre le colonisateur, donc l'État français, et les colonisés. Genre, moi, je vais pas m'intervenir. Par contre, il y a un sujet qui est essentiel, et je vais répondre directement à votre question, ben, c'est de savoir si, en termes géopolitiques, la France et l'Europe, puisque depuis le Brexit, la France et l'Europe ont trois territoires dans le Pacifique. Polynésie française, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie. Est-ce que l'Europe, la France, a envie d'être présente dans le Pacifique quand on sait ce que font les Chinois, les États-Unis, les Australiens? Ça, c'est une vraie question. D'autant plus que la Nouvelle-Calédonie, elle a des ressources importantes. On parlait du nickel tout à l'heure, mais c'est pas rien quand même, hein, la ressource du nickel. Donc ça c'est un sujet supérieur. Je veux dire, notre président de la République parle de l'axe Indo-Pacifique, mais l'axe Indo-Pacifique, effectivement, il va de l'Inde jusqu'au Pacifique. Donc ça, c'est... Et aujourd'hui, franchement, on n'a pas beaucoup de réponses sur de savoir, comme vous le dites, mais rappelez-vous quand même l'histoire. La Nouvelle-Calédonie, c'était le porte-avions des Américains pendant la Seconde Guerre mondiale.
200 000 Américains en Nouvelle-Calédonie. Et même qui voulaient en faire un État.
Ah ben exactement.
Et De Gaulle a refusé.
Exactement.
Voilà, on est bien d'accord.
Donc je connais l'histoire.
Non, puis la deuxième question,
géopolitique, c'est essentiel.
Non, mais simplement, je trouve que vous bottez un peu en touche, mais sure. Je comprends pourquoi, sur la question de l'autodétermination. Parce que alors, ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez des relais chez les loyalistes, je ne sais pas si on peut utiliser cette expression, dans les populations kanak. Et dans quelle proportion?
Alors c'est minime, mais on en a. Il y en a. Tous les kanaks ne sont pas indépendantistes, hein, je peux vous le dire. Après, ils ont. La société kanak, elle a cette particularité qu'à un moment donné, c'est le vieux qui a raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a une consigne au niveau du vote, même si foncièrement ils ne sont pas tout à fait en phase avec cette consigne, ah, je vais exagérer volontairement, il n'y a pas une liberté de vote. Quoi. Elle n'est pas la même que la nôtre. Nous, on vote, on le voit bien. Hein. on est vraiment, voilà, on a un vote. Mais les Kanaks, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Mais concrètement, est-ce que dans votre formation politique, par exemple, et parmi les élus, est-ce que vous avez des Kanaks?
Oui.
Non, parce qu'on a, parce qu'on a l'impression, vu de métropole, que c'est... les Kanaks d'un côté et le reste de population qui ne sont pas que des Européens, puisqu'il y a d'autres
Mélanésiens, des Polynésiens,
des Asiatiques, des Français avec des ascendances ethniques.
Non, c'est pas aussi. Dans la vie de tous les jours, la société calédonienne, elle aspire qu'à une chose, c'est de vivre ensemble. Et c'est effectivement le contexte politique qui fait que. Et on l'a vu en particulier pour les élections municipales dernièrement. Ça s'est ressenti en particulier dans l'intérieur. Je vous dirais, donner une information, sur les 33 communes de Nouvelle-Calédonie, il y a eu 20 nouveaux maires. Ça veut dire que les Calédoniens aspirent à autre chose. C'est là, depuis 6 ans, c'est effectivement les élus en place, et on le voit bien, hein, on est bloqué parce que... Et c'est pour ça que je parle d'une respiration démographique. Sur un mandat de 5 ans, ça fera 7 ans qu'ils sont élus au Congrès, à la province et au Congrès. Donc à un moment donné, il faut peut-être voir les choses. Moi, je suis toujours optimiste, hein, je pense qu'on trouvera les solutions. Ouais.
On a beaucoup parlé d'ingérence étrangère. Quelle en est la réalité, pour ce que vous en savez? Quelle est la réalité de cette ingérence étrangère? Est-ce que les indépendantistes en sont conscients? Ou alors est-ce qu'ils en profitent? Enfin,
Est-ce qu'ils sont manipulés? La Chine.
Quel est l'état donc cette ingérence étrangère?
Alors bon, on a parlé de l'Azerbaïdjan pendant les événements, mais l'Azerbaïdjan, elle intervient en Corse, aux Antilles, elle cherche effectivement à mettre le bazar en France. Alors donc, ils utilisent tous les éléments, c'est pas, mais il n'y a pas de présence réelle.
Est-ce qu'ils agissent auprès des indépendantistes?
Il n'y a pas d'âge. Alors, sur les réseaux sociaux, on a repéré, parce que maintenant, aujourd'hui, on le sait bien, hein, que beaucoup se passe sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont accompagné, peut-être avec des moyens financiers. Contrairement, parce que, bon, j'ai vécu les événements de 80-84, où là, ils ont été formés en Libye. Enfin, je veux dire, les Kanaks de l'époque, ils étaient formés en Libye. Donc là, ils avaient été formés pour ça. Hein. Cette fois-ci, alors c'est un peu différent. La Chine, elle n'ose pas trop. Elle est autour, hein, elle est au Vanuatu.
Elle tourne.
Mais elle n'est pas aujourd'hui impliquée. Hein. Ben, il y a des négociations en cours pour racheter l'usine du Nord. Ce sont des Chinois qui veulent la racheter. Ce qu'ils regardent, c'est la ressource, déjà. Ils commencent par la ressource d'abord. du nickel, et puis derrière, la ressource...
Mais il ne faut surtout pas leur vendre. Regardez, regardez ce qu'ils ont fait à Athènes, ah, ils ont acheté le port d'Athènes, c'est terrible.
Nous, dans le Pacifique, on le voit, et aujourd'hui, certains territoires indépendants du Pacifique se posent des questions, et ils essayent, comme on dit, de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Donc effectivement, les Chinois, ils n'ont pas du tout la même... Je parlais de l'Europe tout à l'heure, ils n'ont pas du tout la même stratégie que peuvent avoir les Européens en général. Je parle des Français, mais les Européens en général... On travaille beaucoup sur le changement climatique, sur l'aide à l'accompagnement au développement, alors que les Chinois, ils construisent et puis ils y vont, et ils sont, c'est plus direct. Quoi.
Oui.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer ce qui...
Mais il n'y a pas, pardon, je voulais... Non, mais je pense, alors, bien sûr, ils les accompagnent, mais il n'y a pas vraiment d'ingérence directe. Ils sont autour, quoi.
Et est-ce que vous avez une idée sur ce qui pourrait se passer en cas d'autodétermination, en cas d'indépendance? Par rapport à cette ingérence étrangère, parce qu'on parle évidemment de l'Australie, de l'Azerbaïdjan, des Chinois.
Alors l'Australie, attention, l'Australie, c'est quand même le maître du Pacifique, l'Australien. 35% de l'aide au développement dans le Pacifique, c'est l'Australie qui la donne, en relation avec les États-Unis, bien sûr. Hein. Donc les Australiens et les Néo-Zélandais, on a vécu la période du Rainbow Warrior ou des essais nucléaires dans les années 80, vis-à-vis de la France, n'avait pas tout à fait la même vision. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Hein. Ils attendent effectivement que la France se positionne sur ces territoires du Pacifique pour effectivement éviter l'arrivée des Chinois. Ils sont déjà pas trop loin. Donc ça, c'est... Après, ça se traite entre les États. Voilà, donc...
La France, deuxième puissance maritime au monde.
Ah oui, ben oui.
Et tout le monde s'accorde à dire que les ressources du 21e et du 20e siècle sont au fond de l'eau. Donc c'est très important.
Ben, c'est effectivement. Et c'est pour ça que la France, elle doit aujourd'hui, c'est pour ça que quand je parle de l'ensemble des Outre-mer, elle doit.
Il faut une vraie
avoir...
politique qu'on n'a pas en ce moment. Ça, c'est très clair.
Moi, je peux vous dire, hein, c'est un débat qu'on a, on a à la délégation Outre-mer au Sénat. Ben, j'ai 4 collègues qui sont venus là une semaine, il y a un mois. On travaille sur l'insertion régionale de nos territoires. On l'a fait pour l'océan Indien, on l'a fait pour l'océan Atlantique. Et là, on va produire un rapport fin mai, début juin sur le Pacifique. Comment nos 3 territoires du Pacifique peuvent s'insérer? Et on envisage après d'avoir un débat effectivement au Sénat pour savoir effectivement ce que veut la France. Et l'idée, c'est que l'année prochaine, ou au mois de septembre, qu'on va commencer la campagne des présidentielles, on va demander à chaque candidat de savoir ce qu'il souhaite faire des Outre-mer. Parce que les Outre-mer, on va se dire les choses. On met un pansement quand il y a un problème aux Antilles, à Mayotte. Là, on a mis 3 milliards à Mayotte, on met 2 milliards d'euros en Nouvelle-Calédonie, mais c'est pas, il y a pas que ça. D'abord, on n'a pas plus les moyens,
plus les moyens
de le faire. Mais à un moment donné, il faudrait une stratégie politique, quoi, comme vous le dites. Hein, qu'est-ce que la France, elle a? Les moyens, est-ce qu'elle a envie de...
Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Que faire pour doper cette économie? Imaginons, soyons fous, qu'on part d'une page blanche, vous pouvez tout faire. Qu'est-ce que vous faites?
Oui. Ah mais il y a un potentiel énorme.
Pour tout de suite, la remontée quoi.
Là, le problème économiquement, je reste sur l'économie, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que tout a été, il y a deux choses, tout a été axé sur l'économie du nickel. On n'a pas diversifié, donc aujourd'hui, les Calédoniens, on forme des techniciens, c'est pour travailler dans le nickel. C'est le nickel et l'administration. On est une collectivité hyper administrée. Donc ça, à un moment donné, ça a un coût. Hein. Et on n'a plus les moyens de payer
notre administration. C'est un coût, et ça ennuie tout le monde en plus.
et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, ça fait... Parce qu'on n'a pas un minimum sociaux ou autre. Donc heureusement que dans les familles, il y a un fonctionnaire ou deux, ça permet de faire vivre encore aujourd'hui les familles calédoniennes. Mais ça ne va pas durer. Parce que, comme je vous dis, les collectivités, elles n'ont peut-être pas les moyens de le faire. Mais on a du potentiel en tourisme, en économie verte, c'est-à-dire on a de l'espace de disponible pour développer notre agriculture. D'abord, on est à 18%, je crois, d'autonomie alimentaire. On pourrait
vous importez pratiquement les 3/4. Quoi.
On importe les 3/4, je veux dire.
Ça coûte une fortune.
Ça coûte une fortune, parce qu'effectivement... Il n'y avait pas un besoin de vraiment développer l'agriculture. Donc, après, c'est compliqué de développer l'agriculture, hein, mais bon, il faudra le faire. Et puis, comme j'en parlais tout à l'heure, on peut parler de l'économie bleue. Je ne veux pas aller parler des fonds sous-marins, mais ne serait-ce que la pêche. Je veux dire, on n'est pas comme les Chinois autour. On protège notre lagon ou la Polynésie française qui a axé beaucoup de son économie sur la pêche. Nous, on a encore un potentiel à le faire. Donc on a des,
Pourquoi il n'y a pas eu cette économie sur la pêche?
Ben, c'est le nickel qui occupait tous les emplois.
Mais rassurez-moi, la plus grosse société de nickel qui opère sur le territoire de Nouvelle-Calédonie est française.
Eramet.
C'est français, ouais. Ou c'est des actionnaires étrangers?
Alors, il y a trois types. Hein. L'ASNN, la société historique calédonienne, c'est une filiale d'Eramet et de Rothschild. Enfin bref, c'est des fonds européens ou français. Après, l'usine du Nord, ça a été des Suisses et Canadiens. Aujourd'hui, il y a des Chinois, puisqu'elle est fermée, l'usine du Nord.
Hein. Et pourquoi elle est fermée?
Elle est fermée parce que, économiquement, elle n'était pas viable. Donc, ils ont décidé de la fermer.
Elle n'était pas viable à cause de ce que vous disiez tout à l'heure, des normes, du prix du travail, etc.
Pas concurrentiel. Le plus important, c'est l'énergie. Mmh. On a une énergie qui est hors de prix.
Mais vous n'avez pas de panneaux solaires, Nouvelle-Calédonie?
Oui, mais pas pour les industries.
Encore.
Il faut vraiment produire énormément. Donc, on a effectivement de l'hydraulique, mais... Alors, il y a des projets en cours. Puis après, vous avez une usine dans le sud qui est plutôt... c'est des trafiqueurs, c'est en fait des financiers, quoi, qui gèrent, pas des industriels.
En fait, vous nous parlez d'un territoire qui s'est laissé vivre pendant des années, pendant des décennies, au lieu de se développer.
Ben oui. Mais oui. Et là, au stade où on en est, là, aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, il nous faudra 20 ans, hein, pour retrouver notre économie de 2023.
Est-ce que ça peut atteindre le vote?
20 ans, ça va forcément, compte tenu de l'enjeu de ces élections.
Ça fera partie des débats. J'espère qu'on aura à l'issue des échéances du mois de juin.
Et ça, vous avez déjà rencontré plusieurs fois le président de la République sur ce dossier. Vous l'avez expliqué tout ça. Qu'est-ce qu'il dit?
Oui.
Qu'est-ce qu'il dit? Voilà la question. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous avez raison.
Et
il dit qu'il va s'en occuper.
Il dit qu'on peut être 100% français, 100% calédonien.
Voilà.
Vous l'avez entendu dire avant son premier mandat, où la colonisation était un crime pour l'humanité.
Contre l'humanité. Ce qui est assez amusant, c'est que, pour parler d'Emmanuel Macron, on avait régulièrement sur les plateaux télévision en métropole une députée loyaliste extrêmement véhémente, Madame Baquès.
Baquès, oui.
Mais qui était dans le
Giron. Au gouvernement.
Exactement. Et bon, il y avait quelque chose d'assez surprenant en réalité.
Tout à fait.
Par rapport à la tonalité générale de cette majorité que d'entendre.
Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, je peux vous dire. Mais bon, c'est.
La tonalité du gouvernement ou Madame Baquès?
De Madame Baquès. Par rapport au gouvernement, elle est.
C'est ça.
Mon collègue est en retrait. Député aussi, bon, il n'a pas tout à fait. Bah, de toute façon, on est dans le mur. Hein. Rien ne s'est passé depuis. Depuis 5 ans, hein. le mandat du président de la République, il n'y a pas eu grand-chose pour la Nouvelle-Calédonie. Enfin, je veux dire, ça n'a pas débouché sur une évolution.
Et alors, une dernière question.
Allez-y, mon cher.
Est-ce que dans la perspective d'un renouvellement total, ou voire même de relations avec la France, enfin avec la métropole, est-ce que vous envisageriez une indépendance calédonienne avec... toutes ces composantes, est-ce qu'il y a des Européens ou des non-Kanaks, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des Européens de souche, peu importe, qui essayent de penser ce que pourrait être cette indépendance la Nouvelle-Calédonie?
Alors je vais vous dire une chose quand même, c'est que les indépendants, c'est les Kanaks en majorité, ils ne veulent pas une rupture avec la France. Hein.
Ils veulent le beurre, l'argent du beurre.
Non, c'est une reconnaissance. Alors après, c'est le problème. Donc, je veux dire, c'est pas... aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, c'est... Je veux dire, couper le lien avec la France dans cette région du monde, ça serait catastrophique pour nous. Mmh. Donc, c'est la vraie question aujourd'hui, c'est de définir le lien qu'on peut avoir avec la France. Alors, on peut appeler ça indépendance association. Enfin, on utilise plein de termes là-dessus, mais pour 260 000 habitants, je veux dire...
Ouais.
C'est une indépendance, ça n'existe pas pour 260 000 habitants. C'est les interdépendances qui sont importantes. Et notre lien avec la France et l'Europe, il existe. Donc c'est comment on préserve ce lien avec la France. Mais à condition que la France et l'Europe, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, désirent vraiment d'être géopolitiquement, de s'impliquer dans la région. Et ça, c'est essentiel. Sinon, effectivement, on peut, je vais dire n'importe quoi, mais on peut se retourner vers les Australiens, vers les États-Unis, vers... voilà, pas aussi. Alors, ça serait triste d'en arriver là. Donc, mais, vous voyez, il y a des chefs d'entreprise avec qui j'échange, bon, qui sont là depuis 15-20 ans. Eux, ça ne les perturbe pas, l'indépendance. Ce n'est pas ça, le problème. C'est de savoir comment un chef d'entreprise peut faire son business, peut investir à long terme. Parce que c'est ça, le problème. Là, aujourd'hui, on est trop à court terme. Mais ils demandent simplement d'avoir un cadre sur lequel ils vont pouvoir... Parce que le potentiel, il existe, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Et vous êtes optimiste ou pessimiste?
Moi, je suis toujours optimiste.
Ah bon.
Voilà, je vais y trouver.
Alors... Oui, je voudrais vous demander, vous parliez du rapport qui va sortir bientôt, là, et du fait que vous allez interroger tous les candidats à la présidentielle sur que faire pour l'outre-mer, un vrai plan à 20 ans, etc. Donc, vous êtes républicain, donc c'est vous qui allez vous en occuper. Le plan des Républicains est déjà fait.
Non, alors...
Les propositions des Républicains.
Moi je vous parle de la délégation Outre-mer au Sénat, oui. Où là, il y a tous les élus d'Outre-mer, hein, de quelque partie que ce soit. Il y a même des élus de l'Hexagone, hein, qui sont dans la délégation Outre-mer, donc on échange régulièrement sur le sujet. Après, effectivement, moi, je suis républicain. Je souhaite que le candidat des Républicains ait...
Ah bah, vous l'avez déjà, ben
oui, Retailleau. On l'a déjà, on en parle régulièrement. Ouais. Il faut le faire, je pense, c'est important.
Il est sur votre ligne, Retailleau?
Il est important. Pour la Nouvelle-Calédonie,
oui,
vous voulez dire.
Il a bien compris qu'il fallait vraiment que la France ait enfin une politique profonde de commerce.
J'arrête pas de le dire. Effectivement, il faut.
Mais il en est convaincu ou pas, lui?
Alors après, je pense. Après, il y a d'autres. Vous savez bien, il y a d'autres sujets importants aussi dans l'Hexagone. On peut parler d'immigration, on peut parler de plein de sujets. Donc c'est vrai que la problématique de l'Outre-mer et de la Calédonie en particulier à 18 000 km, il y a de moins en moins de collègues. Que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, par rapport à ce que j'ai connu. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le circuit. Ouais. L'Outre-mer, ça parlait, quoi, il y a 30 ans, hein, dans les deux parlements.
Oui, il y a un parti politique sur l'échiquier politique national, qui est le Rassemblement national, qui depuis très longtemps, et je pense en particulier à Marine Le Pen, mais même avant elle, à son père, a développé un discours vers les Outre-mer. Et il y a une vraie connaissance, je pense, chez certains cadres. On avait reçu Monsieur Rouget.
Ouais, voilà. Mais
est-ce que vous ne percevez pas justement sur cette... Parce que potentiellement, c'est quand même un parti qui pourrait accéder au pouvoir.
Ils ont produit un document, hein, sur, en particulier pour la Calédonie, hein, développement économique...
Est-ce qu'il n'y a pas, justement, chez ce parti-là, dans cette famille politique-là, un peu plus de goût pour la chose et d'intérêt pour les Outre-mer et la Nouvelle-Calédonie en particulier ?
En tout cas, ils se sont exprimés. Marine Le Pen est venue en Nouvelle-Calédonie l'année dernière. Bon, elle suit le dossier personnellement, hein, je peux vous dire.
Oui,
hein.
C'est
Marine Le Pen qui le fait. Hein.
Alors, un auditeur nous a envoyé un petit message. Pouvez-vous nous rappeler les raisons pour lesquelles le corps électoral est gelé en Nouvelle-Calédonie ? Vous l'avez fait, monsieur le sénateur.
Ouais.
Est-ce pour favoriser les Kanaks ? Ça, on n'en a pas parlé de ça. Est-ce que c'était pour favoriser ou pour calmer les Kanaks ?
En fait, les Kanaks, ils ont peur, et c'est lié à l'histoire, hein, de la colonie de peuplement, de se retrouver dilués, quoi. C'est-à-dire que, parce qu'il y a eu, on va pas se mentir, hein, il y a eu le bagne, il y a eu l'époque Mesmer, où effectivement, il y avait eu une velléité, en fait,
De rouvrir le bagne ?
Mais voilà. Il y a eu, on se l'est dit tout à l'heure, hein, après 62, il y a pas mal de pays noirs qui sont venus s'installer en Nouvelle-Calédonie. Donc, les Kanaks, ils ont cette peur d'être dilués. Donc, c'est pour ça que, pour éviter ça, ils ont souhaité restreindre ce corps électoral. C'est à leur demande. Donc, il y a eu un accord. C'est l'accord qui l'a permis. Hein.
Et qu'est-ce que vous disent les gens qui vivent en Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens, donc, lorsque vous rentrez sur vos terres Parce qu'on a, tous lu l'article du Figaro, Franck, qui faisait référence tout à l'heure, avec ce qui s'est passé lors des émeutes et la situation dans laquelle sont les gens aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils se sentent abandonnés ?
Oui. Il n'y a pas de perspective. Je veux dire, on a une aide financière de la France. Hein. Il y a eu, au budget de cette année, 2 milliards d'euros étalés sur 5 ans pour relancer l'économie, enfin retravailler, mais
ça ne suffit pas.
Mais ça ne suffit pas. Je veux dire, on a, On a 20 ans d'économie, on a 20 ans pour relancer l'économie.
On a l'impression que Paris a laissé pourrir la situation.
Moi, je l'ai dit au président, il n'a pas apprécié, hein, je l'ai dit. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, ça a été catastrophique pour nous. On a vécu le 13 mai, hein, les émeutes, il y a eu les élections européennes, dissolution de l'Assemblée nationale, et là, patatrac, pas de gouvernement, enfin, je veux dire, on était... on avait du mal. Donc, jusqu'au mois d'octobre, pratiquement, avant le gouvernement Barnier, la Calédonie...
Et vous étiez abandonné tout le monde.
Sorti des radars. Enfin, ouais. Bon, ben, après, il y a quand même des personnes qui sont préoccupées, mais il n'y avait pas de vraie stratégie. Et depuis, le problème, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on a eu 8 ministres de l'Outre-mer. Depuis...
Mais qu'est-ce que vous avez dit au président de la République qui lui a pas fait plaisir, alors?
Ben, qu'on a l'impression...
Qu'on était abandonné.
Abandonné, je veux dire. Après l'élection législative, avec mes trois autres collègues, les deux députés et mon collègue sénateur, on est allé voir le président de la République. Et je lui ai dit, ce que ressentent les Calédoniens, c'est d'avoir été abandonnés pendant 6 mois.
Dernière question, monsieur le sénateur, parce qu'on vous écouterait pendant des heures, vous êtes passionnant, mais est-ce que vous craignez que, après les élections provinciales, si les résultats ne plaisent pas à certains sur le territoire, les émeutes reviennent, qu'il y a encore de la violence?
Franchement, je ne pense pas. Je vous le dis comme... moi, je fais des allers-retours. Hein,
24 heures de vol à chaque fois.
À chaque fois. Ouais. Là, parce que je suis venu en urgence dimanche, j'ai passé 16 heures à Bangkok pour attendre un vol. Bref, non, ça, c'est pas, ça fait partie des... Ouais. Je ne pense pas parce que notre société, elle est résiliente, mais là, elle est vraiment au bout du rouleau et elle a besoin, mais c'est à nous, élus politiques, à les rassurer, à leur donner des perspectives. Donc, je ne pense pas à des émeutes, quoi qu'il arrive, après les élections, en fonction du résultat. Par contre, j'espère que les élus qui sortiront des urnes le 28 juin auront cette prise de conscience de se mettre autour de la table. Alors, le problème qu'on va avoir, c'est que derrière, on a les échéances présidentielles. Donc. Mais encore une fois, c'est à nous, Calédoniens, de savoir ce qu'on veut comme projet de société. Et mes collègues me le disent, hein, nous, on est prêts à faire ce que vous voulez. On a vu avec Bougival, Bougival, c'est pas rien, hein, créer un État calédonien... Une nationalité calédonienne, c'est pas dans la Constitution française, c'est pas quelque chose de naturel, on va dire ça, sans jeu de mots.
Oui.
Mais en fait, nos collègues parlementaires, ils attendent à ce qu'on se mette d'accord, nous, entre Calédoniens. Donc il va bien falloir, après ces échéances du mois de juin, qu'on se mette autour de la table avant la fin de l'été.
Et vous souhaitez que ces élections permettent, comme pour les élections municipales, un renouvellement des têtes?
Il faut un renouvellement, je pense qu'il y aura un renouvellement, il ne faut pas se faire d'illusions. On a parlé de la jeunesse tout à l'heure, je pense que la jeunesse, la société civile ont besoin de ce renouvellement, attendent ce renouvellement.
Jean Naturel, sénateur de Nouvelle-Calédonie, merci pour toutes ces explications et puis vous revenez quand vous voulez à cette antenne. Merci beaucoup.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Alors, il est 19h08 et vous écoutez Restons Courtois. Autour de la table, les fameux mousquetaires, Franck Herriot, Damien Chalamel, Gérard Gachet. Vous savez qu'on a pris l'habitude de terminer cette émission avec des coups de cœur culturels, des livres, des films et tutti quanti. Mais avant cela, parlons du joli mois de mai. C'est la météo incertaine, ça c'est sûr. Parce que ce mois de mai avec des ponts, que dis-je, des viaducs, cela irrite beaucoup de monde. On travaille de moins en moins, et puis c'est vrai qu'avec 3500 milliards de dettes, on peut tout se permettre, n'est-ce pas Gérard?
Absolument, et on découvre cette occasion, grâce à ce joli mois de mai, que la France possède les plus grands ponts du monde. Alors rassurez-vous, je ne vous parle pas de Tancarville, ni du pont de Normandie, ni du viaduc de Millau, non, mais de ce joli mois de mai, où on a quand même eu le pont du vendredi 1er mai, le pont du vendredi 8 mai, le pont de l'Ascension du jeudi 14 mai, nous y sommes, mais nous au moins on travaille, et enfin, à venir encore, le pont de la Pentecôte avec le lundi 25 mai qui sera également férié. Ce qui fait qu'avec les 35 heures qu'on avait déjà, la cinquième semaine de congés payés et la retraite à 62 ans environ actuellement, nous sommes quand même le pays développé où l'on travaille le moins. Finalement, mai n'est plus un pont, mais comme vous disiez, un long viaduc ou un aqueduc, enfin, appelons-le comme vous voulez. Donc on peut se poser la question, qui aura un jour le courage politique de remettre en cause ces échafaudages acquis, si j'ose dire, puisque les ponts, n'est-ce pas, c'est se construire avec de beaux échafaudages, et là, on en a quand même une série impressionnante.
Alors, regardez, LFI veut rajouter, je ne sais plus combien, 5 ou 6 jours fériés, jours chômés, jours
oui,
je sais pas quoi, là.
Oui, mais on rajoute, alors... mais le gouvernement veut rajouter aussi des congés parentaux de plusieurs semaines, à chaque fois, de 2 mois, je crois. Donc, on n'a plus d'argent, c'était la question que j'aurais presque souhaité poser au sénateur de Nouvelle-Calédonie. On a quand même un pays au niveau de sa métropole, on le ressent. On est quand même un pays et au niveau de sa métropole, on le ressent en état de paupérisation accélérée. Je ne sais pas si on le ressent en Nouvelle-Calédonie aussi, mais déjà ça complique tout. Et si en plus on continue à creuser des ponts ou plutôt à en construire, je ne sais pas dans quel état on va terminer.
Alors,
j'ai participé au débat de 3 budgets. Hein. Je suis élu depuis 2023, donc. Je connais la situation budgétaire et financière de la France, et on le voit bien. Le budget de cette année, il a été validé au mois de février. Donc, mais
alors on peut faire comme au Japon.
Et l'endettement de la France, je connais l'état de l'endettement.
Comme au Japon, ils ont très peu de vacances, je crois, à peine 15 jours. Ils ont beaucoup de jours fériés.
Mais vous, vous n'y êtes plus du tout, chers amis, je veux dire. Avec l'intelligence artificielle, M. Musk a dit qu'on... On n'allait plus travailler du tout. Ce sont les robots qui vont travailler à notre place. Et on va avoir un espèce de revenu universel, etc. Vous êtes tout à fait déconnectés, mes chers amis.
Mais sauf que les robots risquent de remplacer, effectivement, non,
la CGT robot.
Beaucoup d'emplois non qualifiés ou très peu qualifiés, ce qui posera encore un autre problème, puisqu'on a une population non qualifiée de plus en plus importante, puisque
ils seront payés,
on importe des bacs moins 5 et on exporte des bacs plus 5 dans ce pays. Donc, qu'est-ce qu'on fera si on ne peut même plus employer les personnes non qualifiées, puisque les robots ont rempli la place? Ça va encore compliquer les choses.
Et puis ça l'amène un robot avec une robe noire en
fait. Mais moi, je ne veux pas être grand remplacé, que ce soit par des robots ou qui sais-je encore.
Ce que vous venez de dire, c'est le problème au Japon. Hein. Ils ont du mal à trouver... Eux, au contraire, ils ont du mal à trouver de la main-d'œuvre non qualifiée au Japon.
On peut leur en proposer.
Ah. Oui, bah oui.
Sauf qu'ils ont du mal à s'habituer au Japon.
Non, moi, j'étais fasciné par ces images qu'on a vues sur je ne sais plus quelle télévision, de ces usines chinoises avec des robots qui construisent des voitures.
BYD sur
24 heures sur 24, sans s'arrêter, etc. C'est hallucinant.
C'est la province du Yunnan.
Voilà, si c'est ça demain. Allez, soyons optimistes et coup de cœur, coup de griffe. On commence par qui, Franck ?
Bon, si vous voulez.
Allez.
Bah, moi, je vous recommande une exposition, Les Splendeurs du Baroque, au musée Jacquemart-André, au très joli musée Jacquemart-André.
Qui appartient à l'Académie française.
Oui, une quarantaine de chefs-d'œuvre de l'art baroque hispanique y sont présentés pour la première fois en France, notamment des œuvres de grands maîtres comme Velázquez ou Le Greco. Le musée présente cette exposition comme un voyage, je cite, comme un voyage dans le siècle d'or espagnol entre le XVIe et le XVIIe siècle, lorsque l'Espagne était un empire qui s'étendait de l'Europe aux Amériques. Période où le portrait connaît un essor remarquable, ceux de Velázquez, bien sûr, mais aussi ceux du Greco étonnamment moderne. C'est donc au musée Jacquemart-André, Les Splendeurs du Baroque, jusqu'au 2 août.
Alors, avec qui il faut aller voir cette exposition? Tout seul ou avec une petite amie, avec un copain?
En fait, ce que vous voulez, Jean-François.
En fait, Gérard, au lieu de vous marrer, alors, vous avez quoi en stock?
Eh bien, moi, j'ai eu le plaisir de voir hier soir Les Rayons et les Ombres, film de Xavier Jeannely. Donc l'histoire vraie, on le sait, de Jean Luchet, journaliste pacifiste après la Première Guerre mondiale, qui va devenir progressivement un partisan de la collaboration avec l'Allemagne nazie après l'invasion de juin 40. Son amour pour sa fille Corinne, actrice débutante, et son amitié pour Otto Abetz, jeune Allemand francophile qui deviendra le futur ambassadeur du Reich à Paris. Ce film est absolument passionnant et il est remarquable, avec bien entendu Jean Dujardin dans le rôle de Luchet, mais aussi Auguste Diehl dans celui d'Otto Abetz, et surtout l'incroyable Natsia Golubeva, bouleversante dans le personnage de Corinne Luchet. Écoutez, ce film dure 3h19, vous ne vous en rendez même pas compte. Moi, je l'ai vu hier soir, je suis allé à une séance 20h15, donc ma femme, mon épouse et moi, on craignait un peu
un petit
assoupissement. Et ben pas du tout. Vraiment, on n'en a pas perdu une minute. On s'est absolument pas rendu compte que le temps passait.
Alors, sans vouloir révéler la fin de ce film, il y a un moment extraordinaire. C'est la plaidoirie du procureur à la, oui, à la fin, ouais, lors du procès de Luchaire.
Oui.
Et c'est, tout est expliqué de manière brillantissime. Mais je ne sais pas si
Diallo est joué par le procureur, c'est comment il s'appelle, Torreton. C'est Philippe Torreton, que je n'aime pas énormément habituellement, ouais, mais là, qui est exceptionnel dans ce rôle.
Je ne sais pas si Giannoli, le réalisateur...
Et Jean Dujardin est magnifique.
C'est Jean Dujardin, quand même. C'est inspiré du discours réel, historique du procureur. Mais en tout cas...
De Raymond Lindon.
Oui, Raymond Lindon, absolument. L'oncle de Vincent Lindon. Et donc, les gens qui iront voir le film le verront. Mais ça explique tout. C'est assez brillant.
Alors, c'est vrai qu'on a déjà parlé des rayons et des ombres dans cette émission, les fidèles le savent, mais ça valait le coup d'en reparler, et moi j'ajouterais une petite chose, on ne me pardonnera pas si je dis le moindre mensonge, a dit Xavier Giannoli, c'est le réalisateur, à Pascal Horry, qui est un historien, quand il préparait ce film, Les rayons et les ombres. Ce à quoi l'historien lui a répondu, pardon, on ne vous pardonnera pas si vous dites la vérité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il s'est fait tomber dessus par toute la presse de gauche, Libération en tête, etc. Le Nouvel Obs, etc. Parce qu'ils n'ont pas supporté qu'un pacifiste des années 30, un homme de gauche, devienne un collaborateur. Les collaborateurs, c'était que les méchants de droite. C'est un peu plus compliqué, l'histoire.
C'est plus compliqué, surtout si on se souvient que les premiers Français libres qui ont rejoint De Gaulle à Londres étaient pour une bonne partie issus de l'Action française monarchiste.
Absolument.
Daniel Cordier, l'ancien secrétaire de Jean Moulin, le raconte très bien dans ses mémoires.
Oui, absolument. Donc, monsieur le sénateur, vous n'avez pas vu ce film. On vous engage tous les quatre à aller le voir parce que c'est vraiment formidable. Peut-être qu'il va passer dans l'avion. Là, vous aurez le temps.
Non, je ne sais pas. Mais effectivement, j'ai retenu, j'ai noté.
Ah non, c'est un film qu'on a beaucoup, beaucoup aimé ici.
Ouais.
Alors, Maître Damien Chalamel, vous avez un gros livre avec une couverture rouge.
J'ai un gros livre, mais en réalité, je vais d'abord vous parler d'un film.
Allez-y.
D'un certain Damiano Micheletto. Je ne me souvenais pas du nom du réalisateur.
Quel est italien.
Exactement, qui est un film italien qui s'appelle... Alors, le titre original, c'est... Je préfère au titre français, c'est Primavera, qui veut dire le printemps en italien.
Le printemps, oui.
Mais le titre français, c'est Vivaldi et moi. Alors c'est une évocation magnifique de Vivaldi, et ça s'est tourné à Venise, et d'un épisode particulier d'un amour platonique entre le maître de chant qu'est Vivaldi et qui fait chanter une communauté de jeunes filles qui sont dédiées au chant, sont des jeunes orphelines, et qui exercent leur art dans le cadre d'une forme de congrégation, on peut dire ça, mais laïque, hein, et qui sont, soit elles se marient, et si elles ne se marient pas, eh bien, elles chantent, et elles chantent les créations...
Et dans des couvents
dans ce qui s'apparente, effectivement, à un couvent, avec tout ce que ça comporte de...
Quel siècle
de, on est en 1716... On est sous la régence en France.
Donc, Casanova et
voilà, exactement. C'est la fin et en même temps les grandes heures de la sérénissime Venise. Et donc, c'est absolument magnifique. Et y compris, bien évidemment, d'un point de vue sonore, hein, la bande-son est absolument incroyable.
Voilà. Bon.
Et alors, le deuxième clin d'œil, mais j'ai des scrupules parce que je l'ai à peine commencé.
Mais je vais
quand même en faire la publicité.
Faites-en.
Parce que je pense que c'est un roman dont on parlera, qui s'appelle, je le montre à l'écran, parce que maintenant on a été un, qui s'appelle en bon français Underdog. Alors, j'ai d'un certain Bruno Marsan, qui est un pseudonyme,
Est connu, oui.
Bruno Lafourcade. Alors, j'ai plusieurs points communs. Alors, déjà, en fait, je pense que j'ai l'âge de l'auteur. Donc ça m'amuse beaucoup.
Donc, 32 ans. Non
voilà, c'est ça.
Très âgé.
Voilà, avec une vingtaine d'années en plus au moins. C'est une espèce de roman picaresque dans lequel l'auteur a pour double ce personnage bien connu du cinéma américain qui est Rocky Balboa. C'est interprété par Sylvester Stallone.
Il raconte, qui
est le double du principal du héros de l'histoire. Qui lui s'appelle Richard de son prénom et qui est un enfant du sud-ouest du Béarn exactement, et donc ce sont les aventures picaresques de ce Béarnais qu'on suit et qui a pour double ce personnage. Et
comment vous traduisez le titre Underdog?
Underdog, c'est alors non c'est un peu le alors en bon français, mais c'est pas un anglais, c'est l'outsider un peu.
D'accord.
Underdog.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc, Bruno Marsan, aux éditions Séguier, Underdog. Hein, c'est un livre, par ailleurs, qui a d'excellentes critiques littéraires et qui est potentiellement... alors, on était la personnalité de l'auteur qui ne paiera pas forcément à certains jurés, mais c'est un livre qui potentiellement pourrait obtenir un prix. Oui. Et c'est rare d'avoir des romans. Enfin, il fait quand même près de 600 pages. Hein.
D'un
jeune quinquagénaire.
Voilà, Confidence pour Confidence. Underdog était dans la sélection du prix Jean-René Huguenin, mais comme on l'a reçu trop tard, la maison d'édition, le service de presse a mal fait son boulot. Et les gens, certains jurys n'avaient pas lu, donc il a été mis sur le côté.
Il faut qu'il aille chez Grasset.
Voilà. Non, mais Séguier, c'est une très bonne maison d'édition. Très, très bonne maison d'édition. Georges Naturel, est-ce que vous avez une recommandation culturelle, puisque vous avez fait l'amitié de rester?
Non, mais je suis là pour 15 jours. Et non, aujourd'hui, sur Paris, non.
Il n'y a pas un livre qui vous a... non.
Alors, actuellement, on parlait tout à l'heure de géopolitique, je lis beaucoup de livres sur, effectivement, la géopolitique dans l'Océanie.
D'accord. Ah oui, donc c'est très pointu.
C'est pas effectivement dans les pointu. Mêmes
vous seriez les pas mêmes un peu thématiques obsédé par la Nouvelle-Calédonie.
Bah, un petit peu quand même.
En géopolitique, est-ce que vous connaissez une revue qui s'appelle Conflit, au pluriel, qui est très bien faite?
Oui, je connais bien.
En tout cas, tous les livres dont on vient de parler ici, vous pouvez les mettre dans votre valise, ou en tout cas dans l'avion, à 24 heures de vol, vous avez le temps de feuilleter. Alors moi, j'en ai deux. J'ai un livre et une revue. Régis Debray, Sylvain Tesson, il faut montrer à la caméra, il paraît que ça se fait, parce que maintenant on est filmé dans les...
Ah oui, je vois ça.
Vous voyez, moi j'aime pas ça, parce que j'aime bien faire de la radio, mais sans caméra, c'est comme ça. Alors, Le Grimpeur et Le Grognard, ce sont des lettres que se sont échangées Régis Debray et Sylvain Tesson. C'est publié chez la merveilleuse maison d'édition qui s'appelle Équateur, qui est dirigée par Olivier Frébourg. Et je vais simplement vous lire quelques lignes de la préface d'Olivier, qui est absolument parfaite. Le Grimpeur et le Grognard, c'est deux solitudes, deux nomades, deux Français libres. L'un marqué par la manche étoilée du général de Gaulle, l'autre par la poésie romantique allemande. L'un philosophe, nostalgique, ardent d'une grandeur perdue. L'autre, Van der Berg, traverse les hautes herbes des Alpes. Des steppes. On a rangé abusivement nos deux écrivains dans des cases, celle du guérillero révolutionnaire pour Debray, celle du voyageur musclé pour Tesson. Ce sont deux imprudents pudiques, deux fantaisistes curieux du monde, deux enchanteurs désenchantés, deux stylistes hantés par la mémoire, deux contempteurs de leur époque qu'ils n'ont cessé de déchiffrer de ces ténèbres à la lumière. Et c'est formidable, ça fait, c'est court, hein, ça fait vraiment 80 pages. Mais c'est absolument magnifique, c'est vraiment à lire. Il faut lire tous les livres avec un stylo à côté, mais celui-là, encore plus, oui. C'est une ligne, je ne sais plus qui dit ça, c'est Debray qui dit « C'est une ligne majeure de distinction des êtres. Les uns veulent changer le monde, les autres le courir. Les uns passer à l'histoire, les autres disparaître dans la géographie. Les uns songent à la condition humaine, les autres à leur seule biographie. Vous apparteniez à la première catégorie, j'appartiens à la seconde. » Bref, c'est remarquable. Ça s'appelle Le Grimpeur et Le Grognard. Et puis, une revue littéraire. Les revues littéraires se portent bien à Paris. Celles-ci, ce sont les jeunes gens de Raskar Kapak sur le Forum romain avec Henri de Monterland. Alors, c'est une bande de jeunes gens qui ont créé Raskar Kapak. Ils ont une trentaine d'années, il y a 10 ans. Et c'est toujours... très très bien écrit, très bien pensé. Il faut vraiment avoir ça dans ces bibliothèques. Ils ont retrouvé un fac-similé inédit du questionnaire qu'on avait envoyé à Monterland le 8 novembre 1945, avec des injonctions, prière de répondre expressément à chacune des questions. Avez-vous fait des dénonciations, soit par voie directe, soit par voie détournée, visant des personnes, des collectivités, des partis ou des confessions? Non, ça s'appelle la commission d'épuration. Et c'est un inédit, donc ce qu'ils ont publié. Et c'est absolument, il y a des textes de Simon Bernard, bien sûr, de Maxime Dalle, qui est le fondateur de cette revue. Bref, c'est remarquable ça aussi. Voilà, donc il y a deux choses. Donc il nous reste un petit peu de temps, il nous reste 2 minutes, tout ça pour vous dire, qu'est-ce que je pourrais vous dire, que Gérard Gachet... va nous donner une petite information supplémentaire. Je vois qu'il trépigne.
Pas du tout, j'ai pas l'information. Merci de cette question, Pierre, pour terminer l'émission.
Le pont n'est pas terminé. Le pont n'est pas terminé.
Du coup, ce n'était pas une question, mais j'ai une affirmation. Vivement le retour de Marc Baudrier.
Voilà. Voilà.
Marc Baudrier. Moi, j'ai l'information. Ah. Après la pluie, le beau temps.
C'est pas mal. Ouais. Alors vous allez sortir, faites deux fois le pâté de maison. Pour voir si, Damien, alors Underdog, vous revenez la semaine prochaine.
Après l'avoir lu, vous l'avez fini, et vous faites une vraie critique
alors, du livre.
Je vais finir quand même sur une petite touche un peu négative, c'est que je crains fort que la proposition de loi de l'excellent sénateur Francis Piner soit jugée irrecevable par le Conseil constitutionnel.
Non.
Parce que, contrairement à l'interprétation brillante qui vient de nous être faite, j'ai des doutes.
Quels seraient les arguments du Conseil
constitutionnel ? C'est que ça ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 11.
Tout dépend comment vous lisez l'article 11.
Je crains que le Conseil constitutionnel ne l'interprète
Monsieur le sénateur, en 30 secondes.
Non, mais je voulais revenir là-dessus. Je suis ingénieur météo de formation.
Ah, d'accord.
Donc, j'essayais de prévoir...
Vous êtes donc d'accord avec moi ?
Oui, non, mais j'essayais de prévoir la pluie et le beau temps. Maintenant, je fais la pluie et le beau temps. C'est pareil. J'essaye de faire la pluie et le beau temps.
Merci à tous les quatre. Merci, Georges Vinturel, sénateur Nouvelle-Calédonie. Merci à Damien Chalamel. Merci à Gérard Gachet. Merci à Franck Herriot. La semaine prochaine, Marc Baudrier reprendra son fauteuil. Et comme il dit, il a déjà hâte.
Ça suffit maintenant.